Ça bondit, ça tourne, ça virevolte, ça fait peur, ça fait rire, ça émerveille. Pour cette deuxième saison de L'Art de passer, nous partons à la rencontre de personnalités des arts du cirque qui œuvrent en Fédération Wallonie-Bruxelles. En toute simplicité, elles nous parlent de leurs pratiques et de leur parcours. Je m'appelle Quentin Lemenu, de la compagnie Les Vrais Majors. Je suis ravi de partager avec vous ces rencontres singulières. Bienvenue dans L'Art de passer, saison 2, et l'épisode commence maintenant. Alors je vous plante le décor. Nous sommes dans un salon d'une maison bâtie en pierre de Meuse, assis au sol autour d'une table ronde. Un poêle à bois nous tient chaud, une plante grimpante nous surplombe et un gros matou nommé Loco est posé près de nous. Nous sommes chez Olivier Mélis, technicien et régisseur de cirque depuis de nombreuses années. Il peut construire des chapiteaux, faire des marches arrière avec une remorque accrochée à un poids lourd, grimper sur des mâts, et il comprend ce que veut dire XLR, DMX ou même triphasé. Je suis heureux qu'il ait accepté de nous recevoir, ici, dans son aire de repos, car il me paraît important d'aborder la facette technique du cirque. Installez-vous autour de la table avec nous. Il va nous raconter son parcours.
Donc moi, à 18 ans, j'ai arrêté l'école. Mais c'était dans une période assez compliquée de ma vie familiale et du coup, je m'en sortais pas à l'école, décrochage complet. J'ai décidé d'arrêter quand j'ai eu 18 ans. Et puis là, une de mes grandes sœurs m'a dit « Ah, mais il y a des cours du soir en régie. » J'ai dit « Ah ouais, régie, c'est quoi ?» Donc je vais voir. Et puis c'était à l'Infac. J'ai dit « Ah bah oui, je vais faire ça. » Je me suis inscrit à l'Infac et puis c'est des cours du soir et il faut trouver un stage. Et là, j'ai trouvé un stage avec Paolo Dos, un clown itinérant un peu, qui jonglait avec les mots. Donc j'ai travaillé avec lui pendant un an et puis j'ai arrêté et j'ai cherché un autre stage et puis là j'ai postulé chez les Baladins du Miroir parce que en fait ma famille les connaissait parce qu'au tout début les Baladins étaient dans mon village. Mon père qui est ostéopathe avait traité Nel Paxinou et tout ça, enfin bref c'était un peu dans mon parcours.
Nel Paxinou, la directrice
des Baladins et du coup j'ai postulé chez eux et j'ai été pris. Et de là est partie l'aventure en fait de mon parcours chapiteau, cirque, théâtre forain. C'est vraiment les Baladins qui m'ont un peu jeté les bases et qui m'ont Xavier Decoux, le directeur technique des Baladins, qui m'a vraiment appris le métier.
Ok. Et t'as passé plusieurs années là-bas ?
Oui, j'ai passé 8 ans au moins.
Ouais. 8 ans chez les Baladins.
Ouais.
Puis après, t'arrêtes les Baladins ?
Oui, bah à un moment, c'est marrant parce que Xavier Decoux m'a souvent invité. Il m'a dit t'es jeune. Il ne faut pas que tu fasses toute ta vie ici. Et donc souvent, il me disait, n'oublie pas, il faut que tu bouges à un moment. Et un jour, j'ai bougé. Effectivement, c'était le bon moment. J'avais envie de bouger. Et du coup, j'ai arrêté les Baladins. Et directement, j'ai une compagnie de cirque, Cirque Ambelico, une compagnie flamande, qui m'a proposé du travail via Geoffroy Smet, qui leur avait parlé de moi. Et du coup, là, j'ai embrayé vers le cirque. Et ça a été un coup de cœur immédiat. C'est-à-dire que le monde du cirque, j'étais plutôt dans le milieu du théâtre forain.
Ouais.
Et d'arriver dans le milieu du cirque m'a beaucoup plu. Vraiment, j'ai eu des petites étoiles dans les yeux. Je me suis dit, ah, excellent, je suis trop content d'être dans ce secteur. Et du coup, j'ai bossé avec eux. Et puis après, j'ai voulu moi faire du cirque. Je me suis mis à faire du cirque moi, tout en continuant d'être technicien pour le milieu du cirque. Voilà.
Est-ce que tu sais, quand tu es arrivé dans ce secteur du cirque, c'est quoi qui a provoqué ces petites étoiles dans tes yeux ?
Je pense que y avait dans le milieu du cirque une espèce de... Ah, c'est délicat de dire ça, mais une espèce de fraîcheur comme ça d'un secteur qui est en plein boom, le cirque contemporain. Il y avait une grande logique dans la manière de tourner. C'est-à-dire que moi, je venais d'une compagnie, les Baladins du Miroir, c'était une grosse compagnie subventionnée, des gros moyens. Et là, je trouvais des petites compagnies qui tournaient beaucoup, avec des spectacles, avec des bons spectacles, et avec une espèce de logique de tournée, de logistique qui était très fluide et qui m'a beaucoup plu. En fait, ben voilà, tu veux travailler dans le cirque, ben, tu as ton permis, tu achètes ta caravane, et ben, tu nous accompagnes. C'était un peu ça la logique qui m'a beaucoup plu. Donc moi, j'ai dit, bah oui, je vais acheter ma caravane, j'ai mon permis, bah, je vais conduire votre camion parce que j'ai le permis poids lourd. Et tout était assez logique, en fait, dans la façon de fonctionner. Et ça m'a beaucoup plu.
La logique dans le cirque, quoi.
Ouais, une espèce de logique de survie aussi. C'est-à-dire que Les baladins, c'est un fonctionnement beaucoup plus. Il y a beaucoup de comédiens qui viennent du théâtre et qu'il faut loger. Que le cirque, ça se passe autrement. C'est, tu sors d'une école de cirque, tu vas très vite passer ton permis, acheter une caravane si tu veux tourner, et tu vas en fait devenir nomade par toi-même d'abord et rejoindre une structure nomade. Chez les baladins, c'était plus une structure nomade qui accueille des gens plus sédentaires et à qui ils font goûter un peu la vie de nomade pour un temps. Et du coup, je pense que ça m'a beaucoup plu dans le cirque, cette énergie nomade, et vraiment comme si c'était en fait c'est une urgence, quoi, de vraiment pouvoir être mobile à tout instant et de pouvoir partir en tournée. J'ai vu vraiment des artistes de cirque voyager beaucoup, et aussi du coup le multilinguisme que j'ai rencontré chez les artistes m'a épaté, quoi. Donc les artistes de cirque sont les gens qui, pour moi, parlent le plus de langues. C'est incroyable, incroyable. J'ai vraiment été épaté par cette capacité à s'adapter à différents pays et à pouvoir voyager partout et parler plusieurs langues.
Donc tu vas avec Circumbellico,
Ouais.
compagnie néerlandophone, donc ça
Cirque du nombril.
c'est chouette de passer la frontière linguistique.
Ouais.
T'as découvert d'autres manières de faire là?
Oui, il n'y a rien à faire. Hein, entre, je pense que les compagnies flamandes ont une organisation qui diffère des organisations wallonnes. Je pense qu'il y a un côté nordique et puis sud. J'ai découvert une grande efficacité, une manière de fonctionner. Bon, après, pas diamétralement opposée. Hein, mais c'était très chouette comme découverte. Bon, j'ai eu de la chance, évidemment, de tomber sur donc Iris et Jeff. Qui était bilingue francophone, et moi j'étais vraiment pas très bon en néerlandais. Donc évidemment, on parlait principalement français. Et lors des montages en Flandre, j'essayais de parler néerlandais, anglais, et je me faisais aider de mes collègues. Mais oui, j'étais très content de pouvoir travailler en Flandre parce qu'on est dans un pays et ça me faisait plaisir de pouvoir aller bosser plus au nord, effectivement.
Et c'était un gros dispositif de tournée?
Non, alors c'était vraiment un super dispositif de tournée, un côté très ingénieux. Ils avaient transformé un vieux camion, la caisse d'un camion, en salle de spectacle. Donc dans la caisse de camion, il y avait un gradin qui se dépliait, et au cul du camion, le haillon se baissait. Donc le haillon, c'est ce plateau à l'arrière qui sert à monter et descendre des charges. C'était la scène. Et autour de la scène, il y avait une structure qui se montait en layer, structure échafaudage, et ensuite bâchée. Et donc toute cette structure faisait des coulisses autour de la scène, et des jeux de disparition-apparition. D'ailleurs, le spectacle s'appelait Da Fort, qui est le jeu de cachet-apparition avec les jeunes enfants de Freud, je pense.
Ah, kikabou.
Voilà, exactement. Da Fort. Et donc ça se jouait là-dessus, sur les apparitions-disparitions. Et cette configuration était géniale. Donc les gens rentraient, en fait, rentraient dans une bulle de spectacle. Et moi, j'adore les spectacles d'immersion, où on rentre dans un monde. On sort complètement de nos habitudes. La salle de spectacle d'un théâtre, on a par exemple l'habitude d'y aller, on la connaît.
Ouais.
C'est facile, c'est plus facile que
On
dans
a des
une.
repères,
Voilà, on
quoi.
a des repères. Que là, de rentrer dans le camion, c'était pour le public, c'était vraiment déjà une aventure. J'ai trouvé ça hyper ingénieux comme construction, comme installation. Et donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à le tourner.
Et donc tu te balades avec eux pendant plusieurs années aussi?
Un an et demi, je pense, j'ai fait. Oui, en fait, j'évite parfois des idées où je me dis, ah non, en fait, je vais plutôt faire ça. Ou je vais. Donc, au bout d'un an et demi, 2 ans, j'ai dit, en fait, j'ai envie de faire du cirque et j'ai envie de me mettre plus là-dedans.
De devenir interprète de cirque?
Oui, et du coup, ça a été un peu dur pour eux parce que c'est vrai que j'ai parfois tendance tout d'un coup à être un peu une girouette et à faire tout d'un coup, ok, en fait, là, j'ai envie de faire ça maintenant. Et on a trouvé un remplaçant, Manu, et donc voilà, qui a continué l'aventure et moi, j'étais de mon côté.
Et t'as fait du cirque alors?
Là, je me suis mis à faire du cirque et j'ai bossé, parce qu'il fallait quand même que je gagne ma vie aussi, dans une ferronnerie. Donc, je suis devenu ferronnier dans un atelier avec un ami.
Et quand tu dis que tu as fait du cirque, tu es devenu interprète, tu as créé un
Ouais.
spectacle de cirque?
J'ai créé plusieurs spectacles, des petites formes, des solos, de machinois, où entre autres j'ai fait mes premières au Festival d'Esperanza parce que au CCBOE à Cours-Saint-Étienne. Puis j'ai créé un duo avec Violaine Bishop de la compagnie Lady Cocktail. On s'est bien amusé, on a tourné pas mal. Enfin, chaque fois on a tourné, mais pas tant que ça. Mais c'était un chouette spectacle. Moi, celui-là, j'aimais
Et
beaucoup.
c'était des spectacles, c'était des numéros ou
Oui,
c'était...
c'était vraiment plus des numéros au cabaret. Hein.
Ah ouais.
Ouais. Et puis j'ai créé le spectacle Clean Amen, qui était un seul en scène, mis en scène par Jeff de Circumbellico, et dont j'avais construit la structure moi-même. C'était toute une structure qui se dépliait, le mât se hissait pendant le spectacle. Et ça, c'était vraiment une très très belle aventure. Pour moi, de créer un spectacle de A à Z, c'était un spectacle de 45 minutes. Et c'était une très belle aventure qui malheureusement n'a pas beaucoup tourné parce que j'ai été épuisé à un moment et arrivé au moment de la diffusion, j'en pouvais plus de tout porter sur les épaules. Et puis j'ai commencé à rebosser dans le milieu du spectacle en tant que régisseur. J'ai fait des tournées avec le National aussi.
Ah ouais.
Ouais. J'ai fait des tournées. Ouais, en fait, à un moment, je bossais avec différentes compagnies. Et puis.
Pas spécialement cirque.
Non, à un moment, en fait, j'aimais bien. Enfin, j'ai eu des chouettes propositions, des chouettes demandes aussi. J'ai rarement dû postuler, en fait. Mes boulots, c'était plutôt des appels. Et ça, c'est toujours très gratifiant parce que tu dis, ah, bah, ok, chouette. Bah, d'accord, je vais bien collaborer avec vous. Et du coup, ça me faisait plaisir de tourner avec le National, de tourner plus en salle. Mais très vite, des tournées en hôtel. Et j'aimais pas tellement. Donc, il n'y a rien à faire. Moi, la caravane, où que je sois, je suis chez moi. Enfin, chez moi, avec le respect d'être chez les autres aussi, d'arriver autre part, mais tu as ta petite habitation, donc tu peux te sentir, tu peux te reposer chez toi. Que dans les hôtels, tu restes un passager, mais très vite, ça me fatiguait un peu. Je dis, ouais, bon, c'est pas mon truc en fait.
Ah ouais.
Moi, en tout cas.
Et c'est là que commence l'aventure avec Carré Curieux, Cirque
Oui.
Vivant.
Donc, Carré Curieux, ils sont venus à un moment et m'ont appelé pour chercher un directeur technique pour leur nouveau chapiteau. Et ils m'ont contacté à un moment où ça se mettait bien. Je me suis dit, ah ouais, chouette, ça pourrait me tenter. Et alors, du coup, j'ai été voir leur nouvelle structure. Et je me souviens être arrivé et faire oh, c'est moche. C'était une tente d'événementiel qu'ils avaient fait, mais à leur mesure, donc avec des hauteurs différentes. Vraiment un type tente traditionnelle, pas du tout chapiteau quoi,
Rectangle,
un carré,
carré.
carré curieux, carré rouge. Et mais il se fait que d'avoir tourné avec cet outil, je l'ai trouvé super. Et ils l'ont super bien aménagé. C'était une très très belle salle de spectacle. Donc ma première réaction était juste parce que je venais des chapiteaux et j'étais un peu, ah, j'aime les chapiteaux de cirque, c'est beau et tout ça. Que là, j'étais moins touché par la structure, mais j'ai adoré tourner avec eux.
Et donc, quand tu arrives dans cette aventure-là, de leur spectacle Famille Choisie,
Ouais.
qui est un spectacle en itinérance
Mmh.
aussi, où ils avaient tous leur caravane,
Ouais.
toi tu viens avec ta caravane aussi alors?
Oui, bah alors à l'époque, j'avais un autocar parce que donc on s'est séparé avec la compagne, donc avec Colline, on s'est séparé un moment et j'avais besoin d'une solution d'habitation. Et en fait, il faut savoir que j'ai eu beaucoup de véhicules. J'ai eu plein de caravanes, roulottes, bazar. Et puis à un moment, je cherchais autre chose et j'ai trouvé un autocar. Et là, je pense que j'ai acheté le truc le plus gros que je pouvais acheter, un 12 tonnes type Eurolines, mais déjà aménagé en appartement. Et du coup, je l'ai acheté parce que ça tombait vraiment bien, il était déjà aménagé. J'avais Robin qui avait 3 ans. Et donc voilà, ça c'était notre maison avec Robin pendant cette période-là. Donc j'ai débarqué avec mon autocar, mais j'ai aussi acheté une caravane pour les tournées. Parce que j'ai tourné un peu avec l'autocar, mais à un moment, j'étais le chauffeur poids lourd de la compagnie. Je devais conduire le camion de la compagnie. Et du coup, c'était plus logique que j'ai une caravane que quelqu'un d'autre pouvait tirer.
Et
Donc
donc,
voilà.
directeur technique d'une telle aventure, eux, ils avaient déjà choisi le chapiteau, le gradin, le
Ouais.
camion quand toi t'arrives.
Oui.
Et donc, quelle est ta fonction quand les dates se font, comment ça s'organise?
Ah bah effectivement, ils avaient abattu un sérieux boulot déjà. Donc, il y avait deux artistes, mais qui avaient vraiment les corps de techniciens. Ils avaient imaginé ce chapiteau, fait les plans, trouvé les constructeurs. Donc, ils avaient déjà fait beaucoup de travail au niveau de la préparation de ce projet. Donc, moi, je suis arrivé plus comme la personne qui allait s'occuper de la logistique de tournée, de fin de création, d'affiner les choses, mais vraiment surtout de mettre sur la route ce nouvel outil. Et j'ai dû trouver le poids lourd, les caravanes, pour ceux qui n'avaient pas de caravane et tout ça. Et donc, ça, c'était ma mission, quoi, de mettre en branle tout ce charroi, faire les papiers des véhicules, faire l'homologation du chapiteau, parce que comme c'était un nouveau chapiteau, un nouveau gradin et tout ça, il fallait tout homologuer en France.
Ah oui.
Et donc ça, c'était un gros boulot aussi. Et puis une fois qu'il était sur les routes, ben, trouver cette routine de préparation et que toutes les tournées, que tout fonctionne d'un point de vue technique. Et je faisais la régie du spectacle aussi. un montage de chapiteaux, c'est une grosse équipe de montage sur une journée. Donc c'est beaucoup de travail concentré sur une journée. On demande effectivement, là, pour les caricatures, on demandait 8 personnes, de préférence des gens dont c'est le métier, des techniciens, monteurs, techniciennes, monteuses. Et puis on avait l'équipe de la compagnie, les 4 artistes de la compagnie et moi. Alors, il se fait que dans cette configuration-là, et ça c'est un autre débat, les femmes ne participaient pas au montage parce qu'elles s'occupaient d'autres choses. C'était un peu dommageable, je pense que ça aurait été chouette qu'elles puissent participer, mais voilà, selon les compagnies, et puis les choses changent, mais trop doucement encore. J'ai constaté ça avec ce cirque-là, ça fonctionnait, mais très vite, on a constaté que c'était pas idéal dans une tournée que les rôles soient un peu assignés avec les genres, et parce que aussi c'était plus les gars qui travaillaient pour la compagnie, enfin soit. Je faisais une parenthèse, mais qui est importante. Et en tout cas, là, donc on était 5 de la compagnie, plus les 8 monteurs, monteuses. Et donc, sur une journée, on montait le chapiteau, les gradins, la scène, on fermait le chapiteau et une partie de la régie. Et donc, cela correspond à un équivalent de... On avait un camion de 48 tonnes. On peut dire qu'on avait 30 tonnes de matos, presque. Et on peut dire qu'on charriait presque tout ça sur une journée avec toutes les équipes et des machines. C'était des grosses journées, donc l'important sur ces journées, c'était d'être vraiment comme sur un navire avec tous les marins. On a une mission tous ensemble, on va monter le chapiteau, et donc c'était important de leur présenter le chapiteau sur des photos, sur des plans et tout ça, de leur montrer ce qu'on avait monté, que ça allait être une grosse journée fatigante, mais qu'on allait le faire ensemble, et qu'ensemble on avait monté une salle de spectacle. Et c'est hyper magique, parce qu'on part de zéro, et puis à la fin de la journée, on a une salle de spectacle. Et pour moi, une journée réussie, c'était quand à la fin de la journée, on offrait un verre à boire à l'équipe, et que les gens... En partant, on me disait ben merci, j'ai passé une trop bonne journée. Et là, je me disais yes, ça c'est réussi quoi. Ça veut dire qu'on a réussi à monter quelque chose de hyper lourd, de fatigant, mais les gens sont contents d'avoir participé à ça. Et déjà là, du coup, ça commençait bien pour l'implantation quoi.
Et toi, tu as cette expérience alors de ce plaisir de créer une salle de spectacle en une journée quoi.
Ouais, j'ai été bercé, j'ai baladé à ça. Hein, donc c'était monter les chapiteaux, d'arriver dans une ville, sur une place. Un jour, il n'y a rien, et le lendemain, il y a un chapiteau et des caravanes. Pour moi, c'est la magie de comment trouver les bons mots, de la surprise. Ça veut dire qu'on cassait un peu une sorte de quotidien de la place où tout le monde a un peu ses habitudes, les traverses. Puis d'un coup, il y a des camions, des caravanes, puis il y a un chapiteau. Et puis bah, c'est beau quand même aussi, il y a des couleurs. Et puis il y a un spectacle, il y a de la musique. Et donc il y a toute une réorganisation de cet espace public qui pour moi, enfin, je trouvais ça passionnant en fait. Ça m'a toujours beaucoup plu. Et je trouve que c'est dans la rue que se passe énormément. Ça doit se passer la culture, la rencontre dans l'espace public, quoi. Et ça, c'était une des manières d'y arriver.
Et c'était quoi alors un beau chapiteau dans ton esprit, quoi ?
Ben, je pense que c'est tout ce que ça véhicule en termes d'image. Donc, c'est ces bandes bicolores, souvent jaune, bleu, rouge, blanc, et qui directement éveillent dans notre âme d'enfant le cirque, le spectacle, la surprise, les gens du voyage qui arrivent. Ces formes, ces arrondis, ces arches. Qui peut soutenir ce chapiteau, ces sangles qui tiennent ce chapiteau tendu, accroché aux roulottes, aux camions, aux caravanes, ces couleurs, ces guirlandes. Il faut savoir que chez les baladins, j'avais une espèce de passion pour les guirlandes et qu'à chaque implantation, je tirais des dizaines et des dizaines de mètres de guirlandes. Mais c'était une époque où sur le chapiteau, sur les roulottes, je pouvais passer une journée entière à installer des guirlandes et après à changer toutes les ampoules cassées, qui étaient encore des ampoules à incandescence à l'époque. Et donc, je passais des journées à faire ça. C'était ma passion. Parce qu'à la fin de la journée, quand il faisait noir, je branchais tout. Et là, j'étais, waouh, c'était magique, c'était magnifique, quoi. Mais j'étais un fou des guirlandes.
Ça a été parce que c'est quand même très vite manipulé des choses très lourdes, très grandes. Tu dis que tu as commencé à 18 ans, tu as vite trouvé de l'adresse ou est-ce que tu as pu te permettre de te planter plusieurs fois ou...
Quand j'ai arrêté les baladins, à l'époque, j'avais le dos pété, clairement. C'était hyper fatigant et c'est le fait de m'être mis au cirque et du coup de m'étirer, de m'échauffer qui m'a sauvé un peu mon dos. Donc franchement, je suis assez content de cette temporalité. Je pense que ça m'a un peu sauvé et ça m'a permis de continuer après. C'est effectivement très fatigant parce qu'on doit apprendre à porter. C'est un long apprentissage et je rencontre encore trop souvent des gens qui ne savent pas porter. Et du coup, je me permets parfois de leur dire non, 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 il faut que tu portes autrement parce que tu vas te faire mal et tu vas nous faire mal si on porte ensemble. C'est vraiment quelque chose, c'est un apprentissage.
Que tu n'as pas dans les études, tu n'as pas été...
Non, malheureusement, je pense qu'il y a encore trop peu d'études où on apprend à porter. Je pense, bah après, on l'apprend sur le terrain et si pour autant que les gens autour de nous prennent le temps de nous apprendre. Et je pense qu'on apprend à porter quand quand on porte avec les autres. Donc c'est de nouveau la collectivité qui nous apprend. Ouais. Et il y avait une super équipe à l'époque chez Bananin qui m'a accueilli, qui m'a appris.
Xavier Decoux, lui, ça a été un peu ton...
Mon mentor,
ton mentor,
quoi. Ouais, tout à fait. Il m'a accueilli, j'étais un adolescent encore, deux mains gauches, rêveur. Il m'a tout appris. Effectivement, il m'a beaucoup charrié aussi. Mais ça faisait partie de l'apprentissage, de mettre son ego de côté, et d'accepter de se tromper. Et franchement, je remercierai jamais assez. Il m'a appris et il m'a fait confiance. Et ça, c'est quand on arrive jeune, un peu à côté de ses pompes, d'avoir quelqu'un qui vous fait confiance, ça vous change une vie. Et moi, Xavier, il m'a fait confiance. J'ai passé mon permis poids lourd à 21 ans et je pense qu'à 22 ans, je conduisais des convois exceptionnels. Je me souviens quand j'ai passé mon permis remorque poids lourd, donc mon camion remorque, mon premier trajet c'était de conduire la remorque chapiteau, donc le convoi le plus important, le plus précieux, pour aller à Anderlecht dans Bruxelles. Donc j'avais un convoi de 20 mètres et j'avais 21 ans. Et ça c'est Xavier quoi, il me disait vas-y, t'es capable. Ça s'est super bien passé l'entrée dans Anderlecht, sauf qu'à un moment je me suis arrêté, c'était gros embouteillage pour rentrer sur la place avec les poids lourds, on commençait à tout bouché. Et puis là, je me dis, ah, je vais aller aider à faire la circulation. Et je sors de mon poids lourd, et c'est un arrêt de bus, il y avait plein de gens comme ça. Et puis là, j'entends quelqu'un qui fait, monsieur, monsieur, votre camion. Et là, je me retourne et je vois le camion qui avance tout seul. J'avais oublié de mettre le frein à main. Du coup, je suis remonté dans le camion, j'étais tout gêné, je n'osais plus sortir du camion devant tous ces gens à l'arrêt de bus. J'étais, oh là là, Olivier, quoi. Donc, j'ai plus jamais oublié de mettre un frein à main à un camion. Mais voilà, ça fait partie de toutes ces anecdotes. Je suis rentré dans Paris avec un convoi exceptionnel aussi. Et mon changement de vitesse a cassé après le dernier péage. Et du coup, j'avais un espèce de moignon pour changer de vitesse. Puis il y a de l'air comprimé et puis l'air comprimé a pété. Du coup, je ne savais plus changer. J'étais plus qu'en petite vitesse. Je me suis perdu dans la banlieue parisienne. Et c'est comme si vous avancez en première avec une voiture sur une nationale.
Ah ouais.
Ça fait beaucoup de bruit. Et je me suis perdu. Finalement, je suis arrivé sur le lieu. Et j'étais... triomphant, ça y est, je suis arrivé. Et puis Xavier me fait non, mais gare vite ton camion là. En fait, c'était tout ça était toujours normal en fait. T'as un levier de vitesse qui pète, mais c'est normal, c'est un vieux camion. Et du coup, ça vous forme à relativiser toujours la situation parce qu'en fait, voilà, c'était des vieux bahuts que oui, on roulait avec des vieux camions. Ça faisait le charme aussi, mais ça faisait beaucoup d'histoires et d'anecdotes. Voilà. Et alors, on devait manœuvrer toutes les remorques sur les sites quand on arrivait. Ça se faisait avec un 4x4 ou avec un camion où on attelait dans l'autre sens, donc à l'avant du véhicule pour manœuvrer les roulottes et tout ça. Et ça, pareil, Xavier m'a beaucoup mis à l'épreuve et a fait de moi quelqu'un qui a développé vraiment une compétence en manœuvre, remorque et tout ça. Mais de nouveau, c'est parce qu'il m'a fait confiance. Je pense que tout le monde est capable à partir du moment où on te met en confiance. Et c'est ce que j'essaie moi maintenant aussi de reproduire avec les personnes avec qui je collabore ou je travaille, c'est de mettre en confiance et de dire en fait, tu vas y arriver. Chacun prend le temps qu'il lui faut et voilà.
Waouh, ouais, ça c'est du travail de précision quoi. On remet les remorques à l'avant quand vous arrivez sur place.
Ouais, bah donc ça comment expliquer, c'est nous les remorques qu'on avait c'était deux essieux, un essieu fixe à l'arrière, un essieu mobile à l'avant. C'est comme il y a les remorques de petits trains comme ça. Et pour les manœuvrer plus facilement, vous vous accrochez à l'avant de votre véhicule. Ça veut dire que vous avez l'essieu directionnel de la remorque et les roues qui tournent sur le véhicule assez proches l'une de l'autre. Et le fait d'avoir ces deux parties mobiles proches vous permet de manipuler les remorques beaucoup plus facilement et d'aller les placer exactement là où il faut. Parce que les baladins, en fait, accrochaient leur chapiteau au véhicule pour éviter de devoir planter des piquets dans le sol.
Okay.
C'est une technique foraine, circassienne, mais qu'on voit de moins en moins, mais que les baladins ont beaucoup utilisé, continuent à utiliser, qui est très intelligente, parce qu'en fait, ça permet une économie humaine de devoir planter des pinces. Donc les piquets de chapiteaux, ça s'appelle des pinces. On gagne beaucoup de temps et d'accrocher au véhicule. Ouais, du coup, on devait installer les véhicules autour de la zone de montage du chapiteau pour pouvoir accrocher le chapiteau au véhicule.
Le cirque, c'est un peu des magiciens du système D.
Mm-hmm.
Est-ce que tu as des exemples de petits trucs qu'ils ont trouvés pour que les choses s'attachent, se mettent plus facilement ensemble?
C'est marrant parce que moi, il y a des choses qui me paraissent tellement logiques que je vais peut-être pas les relever. Mais parfois, les gens me disent « Ah, mais c'est marrant, c'est aussi simple que ça. » Tu fais « Ah oui, effectivement, c'est assez simple. » Ben oui, parce qu'un chapiteau, à partir du moment où vous montez une salle de spectacle en une journée, c'est déjà un sacré système D. Ça veut dire que l'humain a inventé la possibilité de monter quelque chose comme ça, où tout d'un coup on va être au sec, assis, avec une scène pour accueillir des artistes. Et donc c'est le principe de monter un mât qui va être tenu par des haubans qui vont l'empêcher de tomber dans une direction ou dans une autre. Et une fois que ces mâts sont bien fixés par ces haubans, eh ben, on peut soulever une bâche, l'attirer. Alors évidemment, il y a toutes des forces qui ont été calculées par des ingénieurs. La construction d'un chapiteau est très compliquée, mais l'implantation d'un chapiteau, le montage d'un chapiteau est hyper simple. Et donc souvent, les gens me disent « Ah oui, mais toi, t'es professionnel. » Je suis professionnel, disons qu'en fait, c'est très logique pour moi. Donc maintenant, effectivement, monter un chapiteau, c'est assez simple. Maintenant, les gens le découvrent sur une journée, ils font « Mais c'est incroyable. C'est hyper facile, en fait. Enfin, c'est tellement logique. » Ben oui, c'est logique. C'est hyper logique, un chapiteau. C'est des forces hyper logiques, mais c'est impressionnant parce que c'est très haut, que parfois, c'est très lourd. Mais en soi, franchement, c'est très, très simple. C'est passionnant, comme c'est très fatigant la vie en collectif, parce que donc on travaille, mais on habite sur notre lieu de travail. Et du coup, nos collaborateurs sont aussi nos amis, nos voisins,
ah oui,
nos voisines. Si on a un moment un conflit dans le travail, bah, il peut se répercuter dans la vie de tous les jours. Et donc, parfois, quand on revenait de tourner, on était heureux de pouvoir se poser à un endroit sans personne et de remettre tous les compteurs à zéro. Parce que c'est exigeant, c'est sûr, c'est exigeant. Et donc, c'est pour ça que moi, quand j'ai acheté cette maison ici, c'était vraiment de me dire, OK, quand je reviendrai de tourner, je viendrai me poser ici, me ressourcer seul, parce que je pense qu'il faut pouvoir tout redescendre pour repartir en tournée, recharger avec la patience, mais l'envie aussi et tout ça.
Je n'allais pas rater l'occasion d'avoir un spécialiste à mes côtés pour comprendre comment se monte un chapiteau de cirque. Tuto.
Alors, les préparations en amont, c'est beaucoup de mails, beaucoup d'échanges. Parfois, c'est très efficace, ça va très vite, mais ça va dépendre de votre communication, en fait, et de votre fiche technique, que votre fiche technique doit être très claire. Donc, c'est quoi une fiche technique ? C'est un document qui rassemble tous vos besoins techniques, qui résume aussi votre implantation technique, ce que ça représente. Parce que c'est pas évident pour tout le monde ce que c'est d'accueillir une compagnie de cirque. Donc nos besoins en termes d'espace, nos besoins en termes de branchement, d'alimentation, de sécurité, d'accès. Donc il y a beaucoup de choses. Une fiche technique d'une compagnie de cirque, c'est quand même c'est dense. Et donc vous envoyez ça, c'est reçu, analysé, et puis après vous établissez une communication. Donc s'il y a des problèmes dans la fiche technique, des choses qui sont dures à respecter, puis on va établir un agenda. On va établir les équipes de montage, des montages, que ça représente. Après, tout est marqué dans la fiche technique, mais c'est toujours bien de tout retraverser ensemble. C'est assez organisé à ce niveau-là. Donc, j'avais vraiment un tableau qui reprenait tous les points importants. Et je devais vraiment avoir rempli tout mon tableau pour dire, OK, cette ville-là, c'est bon. C'est acté, tout est OK. Et c'était un fichier partagé à tout le monde. Donc, tout le monde y avait accès. Il y avait dessus les plans d'implantation. Donc, le véhicule de chacun, où était le camion, les caravanes, où était la zone de déchargement, les sorties de secours. Parce qu'il y a aussi tout l'aspect sécurité pour l'accès pompier. Et donc, tout ça doit être pris en considération pour une implantation. Parce qu'une fois que c'est monté, on ne peut pas se dire « Ah, flûte, ça ne va pas ouais. ». Parce qu'on a ce qu'on appelle des commissions de sécurité. Donc, certaines villes peuvent imposer une commission de sécurité pour s'assurer que vous avez bien fait les choses. C'est quoi une commission de sécurité ? C'est un organe chargé de pompiers, policiers, et puis il y a aussi ceux qui vont contrôler que votre chapiteau est bien homologué. Donc, ça, c'est il y a 20 SOT en Belgique. Et donc, selon les villes, les implantations... Ça peut être très sévère comme contrôle. Donc il faut vraiment, vraiment tout préparer. Et c'était chaque fois une petite parade en soi. J'ai déjà eu des commissions de sécurité où vous arrivez à 10. Et ça, c'était surtout avec les baladins. Et j'ai beaucoup observé Xavier faire, justement, à l'époque. Parce qu'après, c'était moi qui gérais ce genre de choses.
C'est un moment de séduction, de drague
Non, c'est de la diplomatie.
De masquage
Non, c'est de la diplomatie. Parce qu'en vrai, moi, j'étais responsable de la sécurité de... Il y a 400 personnes qui viennent dans le chapiteau. Ouais. En fait, on cache pas les problèmes. Il faut vraiment être sûr de son coup. Parce que si le chapiteau s'écroule, bah ça, c'est sur vous que ça va retomber. Donc, non, c'était plus de la diplomatie parce que la vision de ce qu'est la sécurité peut varier selon les personnes et leur métier et leur assignation. Et donc voilà, c'est beaucoup de diplomatie. Restez calme, absolument restez calme. Ne pas être plusieurs de front. Je disais toujours aux autres, non, je vais être tout seul pour gérer ça. parce qu'on peut vite, selon les caractères, s'énerver ou quoi, et que c'est la dernière chose à faire dans ce genre de moment, c'est de s'énerver.
Ok.
Il faut vraiment rester calme, et la plupart du temps, ça passe. Parce qu'en fait, on faisait bien ça,
Ouais.
on ne cherchait pas à
À
faire des
mettre les
choses à
gens en
moitié, quoi.
danger, quoi.
Voilà.
Dans ton parcours, on peut terminer. Tu nous as pas dit que ce que tu fais maintenant.
Alors maintenant, en fait, j'ai toujours un orteil dans la culture, comme je dis souvent, parce que j'ai eu besoin de faire une pause à un moment. Malheureusement, j'ai failli tourner avec une super compagnie, la compagnie Un loup pour l'homme en France, qui m'avait appelé, qui voulait vraiment qu'on collabore ensemble. Malheureusement, comme beaucoup ont déjà pu ressentir, j'ai eu la petite ampoule rouge qui a clignoté, qui a fait, ah, je sens que j'approche un peu du craquage, parce que c'est beaucoup de responsabilités, et que j'ai senti que j'arrivais à un moment dans ma vie où ça allait être de trop. Et du coup, je me suis retiré du projet. Ça a été très douloureux à faire, et je me suis mis en pause. À l'époque, je bossais aussi avec Lola de la compagnie Lady Cocktail. Je tournais avec sa structure, un spectacle avec un trapèze volant, trapèze ballon. Et donc tout ça, j'ai arrêté. J'ai fait une pause. Et puis là, je me suis remis au boulot. Après une période, je me suis lancé comme toiturier avec un ami qui m'avait proposé qu'on bosse ensemble. Et du coup, ça fait 2 ans que je suis toiturier charpentier. Et ça fait partie de ma vie, c'est que j'ai fait des boulots comme ça. J'ai fait des pauses dans un tout autre secteur. Bon, là, je me suis lancé comme indépendant quand même. Mais je bosse encore avec Stéphane Joris de la compagnie Chemin de Terre. Je fais la régie plateau. Je suis vraiment très content de collaborer sur ce spectacle. Et là, je pense de plus en plus, et ça y est, je l'annonce officiellement, revenir plus dans le milieu du cirque et de reprendre peut-être ma place de directeur technique ou accompagnant technique. Parce que voilà, j'aime beaucoup bosser sur les toits, mais bosser dans le bâtiment n'est pas ma passion. Et ça a été un plaisir de faire des spectacles pour les oiseaux, mais j'ai envie de retourner faire des spectacles pour les humains. Et je pense qu'une fois qu'on a goûté au milieu à la culture et tout ce que ça véhicule, je sens que j'ai un manque depuis des années d'avoir quitté ce circuit. J'ai envie d'y retourner, je pense.
C'est le premier scoop de l'art de passer. Merci pour tout ce partage. Est-ce que y a quelque chose que tu te dis, ah ben ça, j'aimerais encore partager?
Je voudrais dire une dernière chose, profiter d'avoir la parole, c'est que le milieu de la technique est quand même fort mis sous pression. Et on a eu des décès prématurés, tout ça, chez des collègues. Et du coup, je tiens encore à tirer mon chapeau à tous ces gens et à dire qu'il faut vraiment faire attention à tout ce secteur qui est fragilisé par énormément de pression de travail. Et qu'en fait, les spectacles deviennent de plus en plus exigeants pour une très belle qualité, mais que ça demande des ressources humaines importantes et qu'il faut les prendre en considération et ne pas les igner là-dessus, parce que ça reste des humains derrière des machines. Voilà.
C'est ainsi que se termine cet épisode de L'Art de passer. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Vous pouvez retrouver et partager tous les épisodes sur le site lartdepasser.be ou via toutes les plateformes d'écoute. Il m'aurait été impossible de fabriquer cela tout seul. Leslie Doumerx a assuré la prise de son et la réalisation. Au montage et mixage, Arthur Lacombe. Et les musiques sont de Mathieu Tonnant. L'Art de passer est une production de la compagnie des Vrais Majors, coproduit par Latitude 50, Pôle des Arts du Cirque et de la Rue, avec le soutien financier d'Air Libre, Fédération des Arts de la Rue, des Arts du Cirque et des Arts Forains, et le soutien technique de Radio Panique et Radio Campus. Sincères remerciements à toutes et à tous. À bientôt pour la suite.
Et t'as gardé ta passion de la guirlande lumineuse?
Alors oui, mais en fait le problème c'est que, enfin c'est pas un problème, mais on est passé à l'ère écologique et que maintenant c'est des ampoules LED. Alors déjà c'était moins joli, puis ça coûte plus cher et il faut savoir s'adapter au changement et à d'autres styles.
Passion néon.